Merci Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 119. On va faire une courte lecture. On ne va pas lire tout le chapitre, ce chapitre qui est le plus long de toute la parole de Dieu. Psaume 119 et verset 9. J'aimerais que nous étudions une partie de ce psaume, du verset 9 au verset 16. Nous savons que ce chapitre, ce psaume est divisé en plusieurs parties et peut-être certains ont des bibles avec des titres. Et en titre, vous avez certains mots comme Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et vous comprenez pas. Et en fait, c'est que ce psaume a été découpé avec les lettres de l'alphabet hébreu. Donc il est découpé selon les lettres. Et le premier mot commence par ces mots-là. Donc voilà, c'est simplement ça. Et nous étudierons justement la deuxième partie, du verset 9 au verset 16. Nous lisons. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Amen. » Je ne sais pas s'il vous est arrivé de lire ce psaume en entier plusieurs fois comme ça, une fois une journée, et puis une autre fois un autre moment, mais quand on lit tout le psaume, on voit que l'auteur de ce psaume, on ne sait pas qui c'est, en tout cas il n'y a pas de titre, on voit que son auteur est imprégné de la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il l'appelle la loi de l'Éternel, la Torah. Il aime les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il a une affection pour ces choses, pour la parole de Dieu, au point qu'il va en faire un psaume, il va en faire un chant pour le Seigneur, pour sa gloire. Il va dire au Seigneur combien il aime ses préceptes. Et on a vu un court extrait de ce qu'il a dit. Je vous invite à le lire entier. Et vous verrez à quel point il est possible d'aimer ce que Dieu dit, ce que Dieu veut nous dire encore dans notre vie. Et il commence donc cette deuxième partie en disant « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la première chose qui m'a interpellé lorsque j'ai lu ce texte, c'est déjà le départ. Comment le jeune homme ? Et j'aimerais vous poser la question, puisqu'il est répondu à cette première, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. J'aimerais vous poser une question, comment la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier ? Pareil ? Bon, pareil. Comment le vieillard rendra-t-il pur son sentier ? Pareil. Alors on n'a pas à interpréter ce début en disant voilà, ce psaume, il est que pour les, enfin cette partie, elle est que pour les jeunes hommes. C'est pour vous aussi, monsieur de Dieu, messieurs de Dieu, et pour chacun d'entre nous, mesdames, peu importe notre âge, peu importe notre situation dans la vie, ça nous concerne, bien sûr. Comment est-ce que nous pouvons rendre pur notre sentier en se dirigeant d'après la parole ? On peut comprendre d'après le contexte. Pourquoi il commence par le jeune homme ? On voit que c'est quelqu'un qui est né dans le peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui a vécu, qui est versé depuis son enfance dans l'éducation que devait apporter le peuple de Dieu aux enfants. L'éducation qui est la parole de Dieu. Et c'était normal que quelqu'un de plus âgé, un adulte, quelqu'un de plus grand, même un vieillard, soit vraiment capable de rendre pur son sentier, puisque dès son enfance, on lui a appris les saintes paroles. Et puis pour lui, c'est tout naturel de commencer par le début. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Mais peut-être ici ce soir, quelqu'un n'a pas pu dire ça, ne peut pas dire ça. Moi, quand j'étais jeune homme, j'étais loin de Dieu. Ce n'était pas du tout mon souci. Et peut-être il est trop tard pour moi. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'importe votre âge, vous pouvez rendre pur votre sentier en vous dirigeant d'après la parole de Dieu. L'éducation des enfants est enseignée dans toute la parole. On voit que c'est un des conseils que Dieu nous donne. Dans Proverbe 22, au verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Que ça nous encourage à nous parents, eh bien, à persévérer dans l'éducation de nos enfants, des principes bibliques, de la parole de Dieu. Je crois que, qu'importe l'âge des enfants, Ils peuvent prendre plaisir à entendre la parole de Dieu. Je le vis tous les jours et plusieurs fois par jour. Je vois mes enfants, quand je leur chante des cantiques, eh bien, qu'on a appris à l'église, ils le chantent avec moi. En tout cas, Élie, le plus grand, puisqu'Ésaïe ne parle pas. Mais on voit que Élie, même s'il a 2 ans et quelques mois, eh bien, il est tout content d'apprendre des cantiques sur la parole de Dieu et sur Jésus. Alors ne tardons pas, ne tardons pas. Il y a d'autres textes, comme dans Josué, où il est dit, lorsque les enfants verront cette pierre, cet autel, cette chose, eh bien, vous leur raconterez ce qui s'est passé. Et peut-être que votre enfant, il vous dit, mais pourquoi tu mens pas, maman? Pourquoi faut pas mentir? Eh bien, alors vous pourrez lui dire, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Hein? Mais celui qui est la vérité, c'est Jésus. Et la parole de Dieu est la vérité. Voilà pourquoi je ne mens pas, parce que Jésus m'aime et moi je l'aime aussi. On s'aime et on veut pas se décevoir. Et on pourrait multiplier les exemples. Voilà, quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Hein? Ne tardons pas. Dès le départ, enseignons-leur les bonnes choses que nous prescrive la parole de Dieu. Deuxièmement, ce qui m'a marqué, c'est d'avoir une marche, de choisir un sentier pur. Il est dit, bien, comment rendre notre sentier pur? Est-ce que vous voulez que le Seigneur, notre Père, que le Père qui est dans les cieux, mais qui voit sur la terre, lorsqu'il vous regarde, puisse dire de vous, tiens, telle personne, tel jeune homme, mais aussi telle jeune fille, mais aussi telle maman, tel papy, telle mamie, tiens, elle, lui, il marche dans des sentiers purs. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous l'avez à cœur? Puisque sinon, ça ne sert à rien d'étudier cela, de se poser la question ce soir. Mais est-ce que dans votre cœur, vous avez vraiment le désir de marcher dans des voies pures, dans des voies droites, pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu? C'est important. Souvent, on vient à l'église, hein, ça peut vous arriver de venir à l'église parce que c'est l'heure, parce que c'est la coutume. Mais vous venez, vous écoutez et vous repartez et vous oubliez. Moi, ça m'est arrivé, à ma grande honte, mais ça m'est arrivé. Qu'il n'en soit pas ainsi, que dans notre cœur, il y ait véritablement ce désir, lorsqu'on vient écouter la parole, eh bien, de tout faire pour que ce qu'on reçoit nous serve, eh bien, à marcher dans des voies droites, dans un sentier pur. Pur, ça veut dire sans mélange. Pur, ça veut dire sans mélange. Est-ce que du cyanure, vous en boiriez? Non, pourtant, on peut dire, il y a du cyanure pur. C'est-à-dire, il n'y a que du cyanure. Quand il est dit pur, c'est sans mélange. Un sentier sans mélange. Un sentier pur, c'est quoi? C'est un sentier que je choisis. Dans mon cœur, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de mélange. C'est sûr, je choisis ce chemin. On l'a lu. Je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que tout votre cœur a la volonté de marcher dans les sentiers que Dieu vous montrera? Que la parole de Dieu vous montrera? Encore, je renouvelle cette question. Est-ce que c'est de tout votre cœur que vous souhaitez plaire à Dieu? C'est ce que je veux en tout cas, et je veux garder ça dans mon cœur. C'est un sentier choisi, un sentier pur. Il n'y a pas dans mon cœur, mon cœur balance pas. Hein. C'est un sentier aussi où je dépends de Dieu et de lui seul. Il n'y a pas de mélange. Je dépends pas un peu de Dieu, puis un peu de mes propres forces, un peu de mes propres revenus, un peu de mes propres talents. Non, je ne dépends que de Dieu. Et encore, on le lit, c'est quand il dit « ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements ». Il fait cette prière parce que ce psalmiste réalise que de lui-même, il n'arrivera pas à marcher droit. Peut-être avez-vous fait le test d'obéir à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu et vous avez été déçu dans votre cœur. Vous n'y arrivez pas de vous-même. Eh bien, faites cette même prière. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de ta parole, de tes commandements. C'est un sentier où je dépends de Dieu uniquement. Que j'ai confiance en Dieu, pas en moi-même, mais en Dieu lui seul. C'est aussi un sentier sans compromis. Vous avez vu dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15, qu'il est dit, il dit, puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, si au moins tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand on commence à faire des compromis, Seigneur, je t'obéis là-dessus, mais là-dessus, laisse-moi encore un peu de temps. Alors là-dessus, ça va, Seigneur, mais par contre, en ce qui concerne ça, Seigneur, non. C'est moi qui décide. C'est pas possible. C'est un chemin sans compromis. Il faut être froid bouillant, faut être entier avec Dieu. Pas divisé dans notre cœur. Sans hasard. Un sentier pur, ce n'est pas un sentier que je choisis par hasard. Ce n'est pas possible. Il nous faut être plein de conviction, la parole nous dit. Il faut faire des choix parce que d'après la parole, d'après ce qu'elle m'a dit, je sais où il faut aller. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quel choix faire pour votre vie, quel métier choisir, quelle manière de vie choisir, vous hésitez entre vivre sans vous marier et puis avec quelqu'un et puis vivre en vous mariant, eh bien, cherchez dans la parole des convictions profondes. Et Dieu va vous montrer qu'il veut que vous vous mariez, parce que le mariage, il est béni de Dieu. Mais quand on vit à la colle, comme on dit, quand on vit en concubinage, on se prive de la bénédiction de Dieu et de l'approbation surtout de Dieu. Voilà. Pour nous, enfants de Dieu, on ne doit pas vivre par hasard. Je choisis par hasard, on verra bien ce que ça donnera. On doit vivre et on doit choisir, faire des choix avec des convictions dans notre cœur. Dans Romains, au chapitre 14, il a insisté là-dessus, verset 5, que chacun ait en lui-même une pleine conviction. Je vous laisse voir aussi le contexte. Il y a un contexte, mais je crois que c'est de manière générale aussi qu'il y ait des pleines convictions en nous. Si on se pose une question sur quelque chose, demandons à Dieu. Allons chercher dans sa parole ce que Dieu dit. Tiens, est-ce que je dois fumer ou pas? Est-ce que c'est bien de fumer ou pas? Tiens, alors c'est pas écrit que la cigarette est un péché. Est-ce que vous l'avez vu? La cigarette, c'est un péché. Fumer, c'est un péché. Non, par contre, il dit de prendre soin de notre corps. Que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous accueillerez chez vous la personne la plus importante de votre vie avec plein de fumée, l'odeur de la cigarette, toutes ces choses? Non. Je crois qu'on fait tout propre quand on accueille quelqu'un qu'on aime. On veut son mieux. Un enfant, un bébé. Vous lui fumeriez devant, on comprend que c'est mauvais, alors on doit choisir de ne pas fumer. On doit dire, Seigneur, si je ne peux pas y arriver par moi-même, si je suis prisonnier de ça, Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi de la cigarette. Et Dieu le fera, parce que Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Hein, je crois qu'on est tous au même rang, je n'ai pas plus mérité qu'un autre. J'aimerais prendre un exemple, pour rendre concret ce que je viens de dire. Un exemple, c'est quand on conduit une voiture, quand on a une voiture, un sentier pur. Je te cherche de tout mon cœur, un chantier choisi. Imaginez-vous, vous êtes comme un vacancier, hein, un vacancier qui cherche sa route. Quelquefois, on regarde, il y a des gens qui conduisent bizarrement avec leur voiture. On regarde la plaque d'immatriculation, ça ne peut plus maintenant, mais à l'époque, il y avait le département. On disait, ah lui, il cherche son chemin, il ne connaît pas sa route. Hein. Qu'on ait en nous une pleine conviction, qu'on n'aille pas par hasard, mais qu'on soit vraiment quelqu'un de décidé, de convaincu, nous qui sommes enfants de Dieu. Troisièmement, ce que je regarde, il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Comment ? Donc rendre pur notre sentier en se dirigeant. Et je m'arrête sur ce verbe, le verbe diriger. Diriger, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en cherchant dans le dictionnaire, j'ai besoin comme vous de renseignements, je vois que le mot diriger, eh bien, il donne trois significations, trois définitions. La première, c'est, qu'on peut résumer en trois mots, premier, c'est conduire. Diriger, c'est conduire. Et conduire, ça implique qu'on soit le maître, qu'on soit le chef. Si vous êtes le conducteur dans la voiture, c'est vous qui décidez. Si vous tournez à gauche, ça va à gauche. Si vous allez à droite, ça va à droite. Et la personne à côté, elle a beau dire ce qu'elle veut, si vous ne lui obéissez pas ou si vous ne l'écoutez pas, c'est vous qui dirigez. C'est vous le maître de la voiture. Et il y a une loi qui dit qu'on doit rester maître de son véhicule. Hein ? Eh bien, se diriger d'après la parole, c'est que la parole, elle est le maître. Elle est le chef dans ma vie. C'est elle qui décide, c'est pas moi qui juge la Bible, mais c'est la Bible qui doit juger dans mon cœur et qui doit m'aider à discerner le bon du mauvais. Elle doit conduire ma vie, elle est à la place du volant, elle est le chef, elle est le maître. Et quand on commence à discuter la parole de Dieu, déjà on se trompe de route, on quitte le sentier de la pureté. Donc premièrement, conduire. Deuxième mot qu'on pourrait donner, c'est orienter. J'oriente, dans le but d'envoyer. Quand on dirige une lampe dans une direction, on dirige ma lampe, eh bien j'oriente ma lampe, j'oriente la lumière dans une direction pour l'envoyer dans une direction. Et Jésus pouvait dire ceci, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais je vous envoie. Le but de la parole de Dieu, c'est de mettre dans notre cœur un désir d'aller parler aux autres. Je crois qu'un sentier, pur, c'est un sentier qui nous mène à être des témoins. Est-ce que dans notre vie, on est des bons témoins pour le Seigneur Jésus ? Le Saint-Esprit nous y aide. C'est pourquoi il faut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. C'est très, très important. C'est même impératif pour un croyant d'être rempli du Saint-Esprit. C'est encore la parole de Dieu qui nous le dit et c'est une promesse du Seigneur Jésus. Êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit pour être orienté dans la bonne direction, pour être envoyé du Seigneur dans ce monde, pas forcément comme pasteur, pas forcément comme docteur, comme enseignant, mais comme pilier dans l'Église, quelqu'un qui tient la route et qui peut servir le Seigneur, ne serait-ce que par sa vie, sa manière de vivre qui sera en conformité avec la parole. Jésus, il est la lumière. Notre cœur est naturellement penchant vers les choses mauvaises. Vous avez remarqué ? Vous voulez faire le bien, et puis vous n'y arrivez pas, vous faites le mal. Et le mal que vous ne voulez pas faire, eh bien, c'est celui-là que vous faites. Vous tombez dans ces pièges-là. Et puis, on voit qu'il y a un combat dans notre vie. Et il faut absolument à notre cœur, qui à la base est naturel, une orientation, l'orientation du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit, de la parole dans notre cœur. Voilà. Et le Seigneur Jésus, il est notre lumière. Il est avec nous. Et il va nous orienter. Il va orienter notre cœur, changer les penchants de notre cœur. Quelqu'un disait, on tombe toujours du côté où on penche. Vous avez vu en vélo, vous penchez vers là, vous tombez vers là. On tombe toujours du côté où on penche. Vers quoi ton cœur penche ? A-t-il besoin d'être réorienté par le Seigneur Jésus, d'être dirigé par la parole de Dieu ? Sûrement. Tous on en a besoin, j'en suis sûr, dans une mesure certainement grande. Mais orienté dans le but d'envoyer, ce n'est pas la direction dont parle ce texte. Dans ce texte, il est dit qu'il faut être dirigé d'après la parole. Et la parole de Dieu, Jésus lui-même, qui est notre lumière, qui est celui qui nous oriente, qui est la parole faite chair, il ne s'arrête pas à conduire, à être le maître, le chef, il ne s'arrête pas à orienter simplement, mais il va jusqu'à guider. Troisième définition du mot diriger dans le dictionnaire, c'est guider. Guider dans une certaine direction. Et un guide, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Chaque pas, il est là. La parole de Dieu, elle n'est pas là que pour un temps, vous dire « Allez, fais ceci », puis elle vous abandonne. Le Seigneur Jésus, la parole faite chair, il n'a pas dit « Allez, je vous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Tant pis pour vous, débrouillez-vous. » Il a dit aussi à la fin, il a terminé par ça dans le livre de Matthieu, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à condition qu'on se laisse diriger par lui et qu'on ait aussi ses témoins. » C'est le verset qui va avant. Il dit « Allez par tout le monde. » Si on répond à cet appel du Seigneur, à cet envoi, alors il a promis, non pas de nous abandonner, mais de nous guider, d'être avec nous jusqu'au bout. Donc, diriger dans ce sens, conduire, orienter et guider. Et quatrièmement, ce que j'ai vu, c'est, ce que je vois au verset 11, c'est « Je sers ta parole dans mon cœur. » Je sers ta parole dans mon cœur. Le seul moyen d'arriver à se laisser guider par sa parole, c'est qu'elle habite dans nos cœurs. Hein ? Plusieurs fois, j'ai récité ce passage par cœur et j'ai dit « Je sers ta parole contre mon cœur. » Vous n'avez pas dit ça des fois ?« Je sers ta parole contre mon cœur. » Et j'imaginais la belle image « Je sers ta parole contre mon cœur. » Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Pas du tout. C'est « Je sers ta parole dans mon cœur. » Pas contre. Ça ne sert à rien de faire ça. Si elle n'habite pas à l'intérieur, si elle ne pénètre pas mon cœur. Il faut qu'elle habite dans mon cœur. Et serrer, du coup, prend un autre sens. Le mot serré ne prend plus le sens de proximité, mais un sens d'abondance. Dans la bouche de Jésus, un jour, il a dit ceci, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est dans Luc, chapitre 6, verset 38. Donc serré, on comprend que ce n'est pas une question de proximité, mais une question d'abondance. Je sers, c'est-à-dire je tasse. J'amasse, je remplis, je nourris mon cœur de ta parole. Je sers ta parole dans mon cœur, je la sers pour qu'il y en ait beaucoup qui rentrent. Je tasse en abondance, voyez ? Et ça donne un autre sens à ce mot, parce que je sers, ça ressemble à rien. Mais quand elle habite abondamment dans mon cœur, la parole de Dieu, alors je vais commencer à arriver à trouver le sentier pur qui doit être le mien. Je sers. Ce mot est utilisé donc dans la bouche de Jésus et il a une notion de tasser, d'amasser, d'engranger des bénédictions, des richesses pour pouvoir donner en retour encore. Puisque le contexte aussi c'est de donner et il vous sera donné. Si je suis un témoin qui raconte la parole de Dieu à mon tour, qui partage la parole de Dieu, si je suis un bon témoin qui dispense la parole de Dieu, ne serait-ce qu'en vivant la parole de Dieu, alors Dieu ne va jamais me priver de révélation quant à sa parole. Il a dit qu'il donnera la semence au semeur. Le semeur ne manquera jamais de semence pour semer. Si j'ai dans mon cœur la soif de partager le bonheur que j'ai reçu en Jésus-Christ, alors Jésus va remplir mon cœur encore de joie et de bonheur qui viendra du trésor qu'est la Bible, la parole de Dieu. Amen. La parole, comme j'ai dit, est souvent comparée à une semence. Mais beaucoup de fois, on est étonné de ne rien retenir. On est étonné de ne pas arriver à obéir à Dieu et à sa parole. Et on est étonné aussi de ne pas porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Vous êtes peut-être comme moi, quelquefois vous faites un constat sur votre vie et vous dites, mince, j'aimerais vraiment porter plus de fruits pour le Seigneur, plus de fruits. Comme je l'ai dit, la parole est une semence qui doit porter du fruit dans mon cœur. Mais il faut que je reçoive cette semence en abondance. Il ne faut pas que je la reçoive un peu. Si je reçois un peu de semence, j'aurai un peu de fruits. Et peut-être même que tellement j'aurai eu peu de semences que ce que j'aurai reçu ne pourra même pas prendre. Et j'aimerais prendre une image très sérieuse. L'image que Dieu a voulu nous donner à nous pour qu'on procrée, pour qu'on puisse avoir des enfants, enfanter. Si on veut du fruit, c'est un peu la même chose que quand on veut des enfants. On voudrait tellement des enfants. On veut quelque chose. Et Dieu a fait l'être humain d'une manière particulière. On peut pas, dans la pensée de Dieu, on ne peut pas avoir d'enfants sans amour. Ça n'existe pas dans le Seigneur. Il n'y a pas, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas de sexe sans amour avec Dieu. Sans union qui dure la vie. Il n'y a même pas de sexe sans mariage. Et il n'y a pas de mariage sans amour, c'est pas vrai. Puisqu'il dit, l'homme s'attachera à sa femme. Et je crois pas que c'est simplement un commandement. Mais c'est pour mettre en évidence que l'homme doit chérir sa femme. Il doit aimer sa femme. Il doit prendre soin de sa femme. Et je pense que c'est la même chose pour la femme envers son époux. Mais il a dit ça par rapport à l'homme. L'homme s'attachera à sa femme. Et la première chose qu'il nous faut, c'est recevoir la parole avec amour pour qu'elle puisse porter du fruit. Si je lis la Bible, vite, 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 pour faire mon devoir ou ma béa, je ne crois pas que ça va porter du fruit. Je ne vais pas arriver à lui obéir ou avoir du, entre guillemets, du fruit ou du résultat dans ma vie. Ce n'est pas possible. Il faut aimer la parole, avoir vraiment de l'amour pour ce que Dieu me dit. De l'amour pour la parole faite chair, pour le Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas vrai. Je ne cherche pas à plaire à celui que je n'aime pas. Sinon, par intérêt. Si j'ai un patron que je n'aime pas, si je cherche à lui plaire, c'est juste pour avoir un meilleur salaire ou un meilleur poste. Ou alors pour qu'il ne m'embête pas. C'est pas vrai? Alors que quand j'apprécie mon patron, quand j'apprécie mon chef, ça existe, et oui. Quand on l'apprécie, eh bien on va bien travailler. Et quand on réalise que dans la parole il dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, alors d'un coup on fait les choses avec amour. Avec amour, pour être de bons témoins. Il y a besoin d'amour pour porter du fruit. Et deuxièmement, il faut une quantité incroyable de semences pour avoir un, 2, 3, 8 enfants quelquefois, hein, pour une femme, mais pas bien plus. Il faut une quantité incroyable de semences. Et quand on regarde que lorsqu'il y a accouplement, eh bien il y a 200 millions de semences, environ à chaque fois. Et ça donne 1, 2, quelquefois des hectuplés, 8 enfants, mais c'est très rare, un enfant. 200 millions. Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Peut-être pour nous parler. Sinon, si on veut du résultat, si on veut du fruit, si on veut que la parole de Dieu enfante quelque chose dans notre vie, une attitude sérieuse, une nouvelle vie, eh bien, il faut s'en nourrir abondamment. Il faut s'en nourrir abondamment. Vouloir de la semence en abondance, serrer la parole dans notre cœur, amasser, secouer et recevoir en abondance. Si je lis la Bible qu'une fois la semaine, si je lis la parole de Dieu que le dimanche, ou en suivant le prédicateur, je ne crois pas que ça va porter du fruit. En tout cas, pas autant qu'il faudrait. Et sûrement que la semence va tomber sur des cailloux, au milieu des ronces, au milieu d'autres choses. Il me faut absolument demander au Seigneur de me nourrir, de m'aider à comprendre la parole et de la méditer. Heureux l'homme qui médite la parole jour et nuit. Alors je ne parle pas de quantité de textes lus. Je ne dis pas il faut lire 10 chapitres par jour. Gloire à Dieu si c'est ce que vous faites. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est le nombre de fois où vous y retournez. C'est cette abondance-là qu'il faut serrer. Quand vous lisez un verset, ne le lisez pas vite. Réfléchissez, est-ce que j'ai bien vu que c'est marqué « dans » et pas « sûr » ou « contre » Voilà. Et quelquefois on peut se louper, mais revenir. Quelqu'un me disait, alors que je la visitais il y a de ça quelques années, une personne, une mamie, Je la voyais tout le temps triste, tout le temps avec des soucis, tout le temps malheureuse, etc. Puis un jour, je vais la voir. C'était la première fois et on commence à parler, tout ça. Et je lui dis, est-ce que vous arrivez encore à lire la Bible? Et moi, je parlais de ses yeux. Est-ce que vous y voyez encore assez bien? C'était une personne très âgée. Et puis elle me dit, ah, mais moi, je la connais par cœur. Moi, je l'ai déjà lu. Je la connais par cœur. Oh, pas par cœur, hein, mais je sais déjà ce qu'elle a dit. Je l'ai déjà lu. Je dis, ah bon, mais vous n'avez pas besoin de la lire un peu plus encore, à nouveau? Vous avez tout compris? Oui, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de s'attarder. Hein. Mais je crois que cette personne, elle n'a pas compris. Et moi, je comprends par contre pourquoi elle est toujours triste, toujours malheureuse, et pourquoi c'est une triste chrétienne. Voilà. Sans la juger, sans vouloir l'accabler, je ne juge pas la personne forcément. Ce que je veux juger, c'est l'attitude. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme ça qu'on va y arriver avec le Seigneur. J'ai besoin de me nourrir de la parole, d'aimer la parole, de la serrer dans mon cœur. On peut comprendre les difficultés à marcher dans un sentier pur si je n'ai pas soif de la parole de Dieu, si je n'ai pas du respect aussi pour la parole de Dieu et pour mon Seigneur, notre Seigneur Jésus. Cinquièmement, on continue notre lecture. Il est dit de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Au verset 13, de mes lèvres. Et je crois que dans la parole de Dieu, il nous est rappelé à plusieurs reprises de confesser publiquement. De confesser à voix haute. Dans le livre Le Cantique des Cantiques, il y a ce fiancé qui dit à sa fiancée, il dit « Fais-moi entendre ta voix, ma belle colombe. » J'attends que ça, en fait. Hein. Il est tellement fou de sa fiancée qu'il lui dit « Élève ta voix, fais-moi entendre ta voix. » Et on sait que ce texte, il nous parle de l'amour de Jésus pour son Église. Et il nous montre à quel point Jésus aime son Église, à quel point il nous aime, il nous chérit dans son cœur. Et il nous montre à quel point aussi l'épouse devrait aimer son fiancé. À un moment, l'époux, il frappe à la fenêtre et elle dort. Elle dit « Oh, je suis déjà en tenue de sommeil, en pyjama, je ne peux pas sortir. » Et puis elle a des remords, elle revient après, c'est trop tard, il est parti. Ne soyons pas comme cette fiancée, mais au contraire, quelqu'un qui est passionné pour son fiancé, pour son époux, pour Jésus. Quelqu'un de passionné. Et on entend notre fiancé, on entend Jésus dire « Élève ta voix, j'aime entendre ta voix. » Que ce soit le dimanche matin ou d'autres moments, dans l'intimité, dans la chambre, au milieu des frères, des sœurs, peu importe l'endroit, dans la voiture, élevons la voix auprès de Jésus. Il attend que ça, il aime nous entendre, mais à voix haute, pas que dans le cœur, aussi à voix haute. Prenez cette victoire, relevez ce défi, parce qu'il y en a un qui veut surtout pas que vous soyez des témoins. Il y en a un qui veut surtout pas que vous ouvriez votre bouche, c'est l'ennemi. Il veut surtout que vous passiez pour des timides auprès des autres, que vous passiez pour des malheureux, des gens qui ne sont pas heureux de ce qu'ils ont reçu, des gens qui n'ont rien reçu aux yeux des nouveaux qui rentreraient dans ce lieu. Il ne veut surtout pas qu'on vous entende dire combien vous êtes heureux dans votre vie avec le Seigneur Jésus. Alors ne lui obéissez pas à lui, cherchez à plaire à Jésus. Plaire à Jésus qui nous a sauvés de mes lèvres, proclamer, confesser publiquement à voix haute. Sixièmement, il est dit « Je me réjouis ». Comme si je possédais, verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Est-ce que les promesses de Dieu, ce n'est pas des trésors? Tiens, moi je crois que quand il dit que nous sommes guéris dans ses meurtrissures, c'est un sacré trésor. Quand il dit je vous prépare une place, c'est un sacré trésor. Quand il dit « Je ne vous abandonnerai pas », c'est encore là un sacré trésor, un bon trésor. Quand il dit « Je vous prépare une cité céleste, voilà comment elle va être, d'or pur, etc. » Ça aussi, c'est un sacré trésor. Et il va dire « Je me réjouis comme si je les possédais ». Et là, il nous est parlé de foi. De foi. Comment être sur un sentier pur? C'est impossible d'être sur un sentier qui est agréable à Dieu sans avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous le savez. Autant que moi, c'est écrit. Alors, ayons la foi, réjouissez-vous de ce que vous demandez à Dieu. J'ai demandé à Dieu de guérir, de relever M. Go. Je me réjouis parce qu'il a entendu. Et je sais qu'il s'en occupe, il est déjà en train de s'en occuper. Je persévérerai jusqu'à ce que j'obtiens, jusqu'à ce que je vois la chose. Mais déjà, je m'en réjouis. Amen. Déjà, je m'en réjouis du ciel. Jésus m'a promis que j'irai dans le ciel si je garde la foi jusqu'au bout et malgré tout, comme le dit ce chant. Eh bien, je me réjouis déjà, comme si je possédais le ciel. Je l'ai déjà. Il est à moi, j'en suis l'héritier. L'assurance que ses paroles sont certaines, ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu ne ment jamais. Lui, il n'est pas menteur. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Eh bien, ça nous rassure. et c'est un trésor. Réjouissons-nous par avance des choses que nous demandons à Dieu. Et septièmement, je termine avec ça. Qu'est-ce qu'il dit? Dernier verset, verset 16. « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Cherchons à apprendre par cœur la parole de Dieu. Cherchons à apprendre par cœur. Alors je vais dire peut-être quelque chose que vous allez réfléchir, méditer, mais je crois que les références, elles ne sont pas inspirées. Vous êtes d'accord avec moi? Les références bibliques, elles ne sont pas inspirées. Ce n'est pas Jésus qui les a données, ce n'est pas Dieu qui les a données. Elles ont été mises après, des siècles après, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ça a été mis pour nous faciliter la lecture en commun. Si je vous disais, allez, on prend dans Psaume, là où il est écrit, « Comme le jeune homme, rendra-t-il pur son sentier ?» Si j'avais commencé comme ça, on aurait entendu les pages tourner pendant un bon moment, jusqu'au chapitre 119, à moins que vous connaissiez par cœur. Mais si je vous dis chapitre 119, verset 9, de suite on se retrouve tous. Alors si quelqu'un a du mal à retenir les références, eh bien ne soyez pas triste, ne vous culpabilisez pas pour ça. Travaillez-y, ça sert toujours, moi j'essaie d'y travailler. Mais retenons surtout la parole du Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est ce que Jésus dit. Ne vous laissez pas non plus culpabiliser parce qu'un tel ou un tel connaît mieux les références que vous. C'est bien de les apprendre, certes, pour pouvoir retrouver et se remémorer les textes. Mais ce qui est surtout important, c'est le texte inspiré, la parole de Dieu. Je n'oublie point ta parole. Est-ce qu'il y a des versets clés que vous connaissez par cœur, que vous vous rappelez pour vous fortifier quand ça ne va pas? C'est important ça. Hein, on en a tous un préféré peut-être. Hein, Aimé Blanc, je ne m'en souviens plus, mais son épouse, elle me disait, moi j'aime Jean 3,16. Elle disait, attendez, c'est pas parce que tout le monde le connaît. Elle disait, parce que vraiment il me rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et conclusion, quelle est la chose la plus importante pour nous ce soir? Eh bien de rappeler, puisque je ne l'ai pas encore fait, que dans cette parole, la base du chantier, la porte qui nous entre, qui nous donne l'entrée dans ce sentier, c'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour vos péchés. Si quelqu'un n'avait pas encore reçu le pardon de ses péchés ce soir, sachez que le péché c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça vous prive l'entrée au paradis. Mais gloire à Dieu, Jésus, Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur le bois de la croix, porter vos souffrances, porter nos péchés, nos souffrances, nos douleurs, nos maladies. Et il les a cloués dans sa chair sur le bois de la croix pour que lui qui a subi nos offenses, nos péchés, et nos fautes, qui a porté nos fautes, qui a subi la colère de Dieu à cause de nous et pour nous, à notre place, eh bien nous puissions eh bien, connaître sa gloire, sa paix, le paradis, sa présence pour l'éternité. Il a donné sa vie pour sauver ta vie, pour sauver ma vie. Et c'est là la chose la plus importante que la parole de Dieu nous enseigne. Croyez en Jésus, suppliez Jésus de vous pardonner de vos péchés. Dites-lui, Seigneur, maintenant je veux marcher dans tes sentiers et puis vous verrez votre vie. Être béni par le Seigneur, changé, vous aurez la paix, la joie et vous connaîtrez l'amour de Dieu. Lisez la Bible, tout y est inscrit. C'est une lettre d'amour de Dieu pour tous ceux qui sont prêts à la croire. Amen. Merci Seigneur, encore pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est vrai Seigneur, tu veux nous guider par elle, pour nous éviter des pièges, pour nous éviter des fossés. Tu as dit que si un aveugle conduisait un aveugle, eh bien ils tomberaient tous les deux dans la fosse. Mais gloire à toi, tu es en nous et ta lumière habite en nous. Tu nous éclaires par ta parole, par ta présence, par ton esprit, et tu nous évites les pièges de la vie et surtout, tu nous évites l'enfer. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé à la croix, pour la souffrance que tu as supportée, pour la porte que tu as ouverte dans nos cœurs. Non pas que tu l'aies forcée, mais parce que tu as trouvé la foi dans nos cœurs. Nous voulons continuer à persévérer dans cette foi, croire en toi, te faire confiance pour être au bénéfice de toutes les promesses qui sont inscrites dans la Bible. Merci Jésus de nous conduire, de nous raccompagner et encore de nous conduire, c'est vrai, sur le sentier pur qui est ta volonté. Amen.